Oui, si je vous dis une ordure à Naples, vous pensez à qui?
Ce n'est pas la rue qui gouverne, mais c'est la rue qui essuie la morve de ces gamins, qui s'efforce de lui apprendre à lire, à écrire et à compter. C'est la rue qui se déplace 5 fois la nuit pour amener le bassin de sa vieille maman. C'est la rue qui achemine son courrier, qui répare ou installe ses câbles ou ses tuyaux. La rue qui ramasse ses poubelles, nettoie ses bureaux, fabrique ta prochaine voiture de fonction, installe ton matelas et ton parasol. La rue qui cotisera pour ta retraite de ministre. Et des fois, c'est la rue qui vote avec une grande humanité et avec une grande fermeté. Nous sommes dans la rue. Nous y sommes bien. Et on t'emmerde.
Oui, c'est une problème d'eau. L'écologie a bien sûr gagné, puisque maintenant les OGM sont passés au Sénat. Moi, je suis sur une belle plage. L'écologie et les OGM, c'est tout bon pour les Français. Hein, tout le monde vous l'a dit, et ben moi aussi, puisque maintenant, il n'y a plus besoin que je prenne la parole. Bon, ben, merci à tout le monde pour acheter mes produits au Shoya et pour suivre mon combat. À bientôt.
Bonjour, c'est Jacqueline Imbert, bon, je reviens de la manif. Superbe manif à Bordeaux quand même, bien que qu'en disent les chiffres de la police. On n'est pas comme en 95 encore, mais ça va venir, quelques jours de plus et ça va venir. Et puis moi je pense que pour introniser notre chère laitue élyséenne à l'Europe, je pense que ce jour-là, il faudrait bien, bien défiler. Voilà, faire voir qu'on est bien content. Allez, au revoir, mais je pense que ça va continuer. Aujourd'hui, il y avait de l'ambiance, ça m'a un peu remonté le moral. Allez, au revoir, à bientôt.
J'appelle au sujet des CLP, les correspondants locaux de presse. Le statut de correspondant de presse a été conforté par un texte de 1993 et qui permet aux journaux de la presse quotidienne régionale et peut-être d'autres de payer des travailleurs au black. Saviez-vous que dans la presse quotidienne régionale, 60 à 80% de leurs contenus sont faits par les correspondants locaux de presse, lesquels sont payés au bon vouloir de l'organe de presse dont ils dépendent. Certains d'entre eux peuvent être payés quelquefois 4 euros l'article avec une photo et des frais compris. D'autres auront plus de chance, mais toujours de toute façon mal rémunérés. Mais surtout, ils payent leurs charges sociales dans la totalité, soit environ 40% de ce qu'ils touchent. La cerise sur le gâteau, c'est qu'ils n'ont aucune protection et peuvent être d'un claquement de doigts perdre leur job. Pas de contrat entre les deux parties, en quelque sorte. Nous avons donc monté une association suite à un ras-le-bol dans la Sarthe, les correspondants de presse de deux journaux, Ouest France et Le Maine Libre, du groupe SIPA. Nous avons donc envoyé un texte, une lettre à M. François-Régis Hutin, qui est notre grand patron, lequel nous a toujours pas répondu après 3 semaines. On s'interroge et on a envie de faire une action. Donc pour cette action, on demande à tous les correspondants de presse de France et de Navarre de nous contacter, d'essayer d'être solidaires avec nous par l'intermédiaire d'un blog que nous avons créé. Alors notre blog, c'est corres72.haut-et-fort.com.
Oui, c'est Nico à l'appareil. À côté Daniel Mermet, je vous écoute là, je suis en train d'écouter l'émission. Je suis franchement très ému par cette dame que je viens d'entendre, cette dame algérienne qui pleurait dans Sarcelles et dans le poste. Et je me suis dit la chose suivante. Je me suis dit, mais franchement, qu'est-ce qui s'est passé là? Où est-ce qu'on a démissionné? Où est-ce qu'on n'a pas fait notre travail? Eh bien, je vais vous dire franchement, je ne vais pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de dire la vérité aux gens. Si mes prédécesseurs, ils avaient fait ce que j'ai fait, eh bien, cette dame, elle serait venue en France. Elle aurait fait le petit travail qu'elle voulait. Elle aurait pu avoir un petit peu d'argent. Elle serait rentrée chez elle. Et elle y serait beaucoup mieux. Et aujourd'hui, 25 ans après, elle pleurerait pas dans le poste. Voilà. Alors, c'est pour ça que nous, on va continuer notre travail. Avec M. Hortefeux, avec Brice Hortefeux, mon ami, on va continuer. On va poursuivre les 25 000 reconduites par an à la frontière. On va continuer à faire notre boulot. On va faire le boulot que les Français nous ont demandé de faire et que les prédécesseurs que j'ai eus, ils n'ont pas réussi à faire. Et on va reconduire des gens pour que pas, dans 25 ans, ils se mettent à pleurer dans le poste. Voilà. Je vous dis à bientôt. Continuez votre travail, continuez votre émission, Daniel Mermet, parce que ça m'est franchement très très utile. Au moins, Je peux repérer des gens, je sais où ils sont, je peux aller les contrôler, je peux aller les voir, je peux m'en occuper. À bientôt, je vous remercie.
Je sais pas si je vais dire merci à ce dernier message, mais il est très drôle. Très intéressant, le mouvement des correspondants locaux de presse. Il faut les soutenir. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est très rare que des journalistes, puisque ce sont des journalistes, se mobilise de cette façon-là. Et pourquoi c'est important ? Parce que la précarité, qui est très grande chez ces journalistes-là, la précarité, là comme ailleurs, entraîne la servilité, sauf que là, c'est pas tout à fait comme ailleurs, puisqu'il s'agit de la fabrique de l'opinion. Et les journalistes asservis, c'est une opinion asservie, c'est une presse asservie, c'est-à-dire qu'une presse qui n'est pas libre, d'où l'intérêt et l'importance de soutenir le mouvement des correspondants locaux de presse. Aujourd'hui, notre heure est placée sous la phrase qui suit. Ceux qui luttent ne sont pas certains de gagner, mais ceux qui ne luttent pas sont certains d'avoir déjà perdu. Ça s'applique à tout ce qui se passe en ce moment, à droite et à gauche, quand même plutôt à gauche dans notre bel hexagone, mais ça s'applique aussi à l'heure d'aujourd'hui, qui va être consacrée à vos souvenirs et vos témoignages sur mai 68. Vous allez voir que c'est pas une histoire, une page tournée, puisque la plupart des messages qui rappellent cette période font presque tous un lien avec aujourd'hui. Mais auparavant, on va écouter un petit document dans la série. Ça vous a peut-être échappé, mais nous, on ne s'en lasse pas.
Autre mouvement social, celui des agents du port autonome de Marseille, qui dure depuis plus d'un mois et a dégénéré aujourd'hui en affrontement entre grévistes et forces de l'ordre. Écoutez ce qu'en disait Nicolas Sarkozy, qui était en déplacement à Orléans aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Un grutier du port de Marseille travaillait 2000 heures par an. Un grutier du port de Barcelone ou un grutier du port d'Anvers travaillait 4000 heures par an.
Eh oui, 4000 heures par an. Alors, l'équipe de la Bassigisui sort sa petite calculatrice. 4000 divisé par 365, cela nous donne 10h95 par jour. Les grutiers de Barcelone et les grutiers d'Anvers présentent en effet un gros avantage par rapport à ceux de Marseille puisqu'ils travaillent 11 heures par jour, tous les dimanches, sans jamais prendre un seul jour de congé. Formidable.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous travaillez au port de Barcelone, c'est bien ça ?
Oui, c'est l'office de presse.
L'office de presse, impeccable. Je voulais savoir s'il y avait une limite légale à la durée du travail pour les gens qui travaillent au port de Barcelone.
La politique, c'est pas de faire 10 ou 12 heures par jour, sinon de qu'ils sont contactés de nouveau stivataire pour faire le travail.
Ah, c'est-à-dire que la politique n'est pas d'augmenter le nombre d'heures par personne, mais d'avoir plus de travailleurs, c'est ça ?
Oui.
Parce que, en fait, ce qui m'amène à vous poser la question, c'est que notre président, Nicolas Sarkozy, a expliqué qu'au port de Barcelone, les gens qui conduisent les grues travaillent 11 heures par jour, tous les jours de l'année, c'est-à-dire 365 jours.
Non. Un jour, ponctuellement, qu'il y a beaucoup de travail, on peut faire plus d'heures que ça, mais on ne fait pas ça régulièrement.
A priori, c'est pas impossible que les gens qui travaillent au port de Barcelone aient le droit de se reposer le dimanche ou de prendre des vacances, quoi.
Non.
Présidence de la République, nous vous prions de bien vouloir patienter.
Allô ?
Bonjour madame.
Bonjour.
Je vous appelle de France Inter, c'est Renaud Lambert là, pareil.
Ah, c'est à quel sujet ?
C'est au sujet des déclarations du président concernant les grutiers de Marseille. J'aurais aimé avoir les sources du président pour les chiffres qu'il avance.
Chiffres, hein. Voilà. D'accord, c'est noté, ma fille.
Je peux compter sur un appel dans l'après-midi, vous pensez ?
Dans l'après-midi, je ne sais pas, mais de toute façon, vous aurez une réponse.
Ah bah très bien.
Voilà.
Merci.
Je vous en prie, au revoir.
Ah, ben le voilà rassuré, vous avez tout compris. Vous avez tout compris, le 20 mai à Orléans, notre président Sarkozy s'exprimait sur les dockers de Marseille, et qui sont des feignasses, des grosses feignasses molasses, qui font 2000 heures de travail par an, alors que les dockers, a-t-il dit, vous avez entendu, des dockers d'Anvers ou de Barcelone travaillent 4000 heures par an. Alors moi, j'ai fait mes petits calculs, avec ma petite calculette, et 2000 heures par an, ça fait 166 heures par mois, et sur 20-21 jours de travail par mois, ça fait 8 heures. 8 heures par jour. Donc, les dockers de Marseille sont dans les clous de la législation du travail. Par contre, s'ils travaillaient 4000 heures, eh ben, ils travailleraient le double, c'est-à-dire non pas 11 heures, mais 16 heures par jour. Voilà, donc ça, on a compris, c'est une énorme bourde, c'est un énorme mensonge du président de la République. Il faut quand même bien appeler les choses par leur nom. On y est habitué, c'est chaque jour. On a trouvé ça sur le site Les mots ont un sens, que vous pouvez vérifier ce qu'on vous raconte. Et il y a un autre site qui s'est fait l'écho de cette petite nouvelle. C'est un site qui s'appelle Le Contrepoint. Alors, contre-pouvoir. Ce qui est assez étonnant dans cette affaire, puisqu'on parle des correspondants locaux de presse, c'est que ce qu'on vient d'entendre là, c'était sur FR3. Et donc, l'intervention du président de la République a été filmée, a été montée, mixée, validée par toute une série de journalistes, enfin de professionnels, bien évidemment, de l'information, et personne n'a trouvé rien à redire face à cette information fausse. Alors, on espère que nos confrères vont corriger. C'était donc le séjour dernier, mercredi, sur FR3. Donc on attend, parce que c'est assez important quand même que quand il y a une chose, l'erreur est humaine, mais vis-à-vis des téléspectateurs, qu'on corrige et qu'on fasse un petit repentir. Donc aujourd'hui, 1000 mai, vos mai, c'est-à-dire votre mémoire, vos souvenirs de ce mois de mai 68, tel que vous l'avez raconté dans la boîte vocale de la basse, j'y suis au 01 56 40 37 37. Auparavant, encore quelques messages frais du jour.
Oui, bonjour aux AMG parisiens. C'est pour vous annoncer le repère de l'entrepôt qui aura lieu le lundi 26 mai à 20h. À l'entrepôt, c'est au 7 rue Francis de Pressensé, dans le 14e arrondissement. Et notre thème sera le handicap en France. Merci.
Salut Daniel, salut les AMG. C'est Stéphane de Saint-Laurent. On vous appelle, on est plusieurs là actuellement, on est au rectorat de Guyane et on est en siège actuellement au rectorat de Guyane puisque le mouvement continue, hein, on a déjà parlé de ce mouvement sur ton antenne. Et donc ce soir, on se finit la soirée tranquillement pour demain attaquer par une grosse journée, une réunion avec le recteur demain matin pour parler un petit peu de nos revendications et une grosse motivation ici, donc on fait toujours le siège ici avec nos hamacs. On est super motivé, tu peux l'entendre. Il est quelle heure là chez nous? Il est 1h. On est encore debout, demain matin on est debout à 7h. Enfin, on est super motivé, j'espère qu'en France ça bouge.
Salut.
Connaissez-vous les planteurs volontaires? Ce sont des femmes, des hommes, des enfants qui replantent des arbres. Cela se passe dans le sud-ouest de la France, où un projet d'autoroute va anéantir 1500 hectares de champs et de forêts. Une autoroute, après les engagements du Grenelle. L'autoroute A65, la première autoroute de l'après-Grenelle, du baril à 130 $ et de la vérité qui dérange, commence à défricher la forêt entre Langon et Pau. 150 km de bitume entre trois départements d'Aquitaine à travers des zones naturelles classées. Elle est peut-être nécessaire, diront certains. Tandis que les skieurs en route vers les Pyrénées prendraient leur autoroute à 18 € l'aller, les riverains continueraient à demander des aménagements sur la nationale pour assurer leur sécurité. Ben oui, vous prenez l'autoroute pour amener les gosses au foot, vous? Et tout ceci sans aucun risque pour les entreprises qui construiront et exploiteront cette autoroute. Si le trafic est insuffisant, ce qui est plus que probable avec le prix de l'essence et la proximité de la nationale, c'est l'État et les collectivités locales qui paieront le déficit. Mais si ce projet est inutile, dispendieux et destructeur, à quoi bon le faire? Quelques grands élus s'obstinent à vouloir réaliser ce dernier dinosaure autoroutier. Nostalgiques des 30 glorieuses, ils avancent l'œil constamment fixé sur le rétroviseur et programment ainsi le saccage de l'Aquitaine, plus soucieux de ménager les entreprises de BTP que les finances publiques. Nous sommes de plus en plus nombreux à refuser ce projet. Là où on coupe les arbres, nous en replantons. Venez nous rejoindre pour la 4e action des planteurs volontaires, samedi 24 mai à Bazas en Gironde. À 12h30, pique-nique en musique, et à partir de 14h, on plante nos arbres. Venez seul, en famille ou en amoureux. Apportez votre casse-croûte, des plants, même petits, et un peu d'eau. Samedi 24 mai, à Bazas, venez rejoindre les planteurs volontaires. Autoroute à 65, ils se plantent. Replantons.
Bonjour Daniel. Après les lycéens, après les enseignants, les parents d'élèves ont décidé de se mobiliser contre la réforme d'Arcos des écoles. Plusieurs groupes de parents de la circonscription d'Anceny, en Loire-Atlantique, se sont mis d'accord pour entamer un mouvement d'occupation des écoles maternelles et primaires qui débutera lundi 26 mai. Pour soutenir les enseignants et face au peu de résonance médiatique sur le sujet, les parents d'élèves prennent le relais en espérant se faire entendre. Nous encourageons tous les parents à se renseigner sur les réalités et les conséquences de cette réforme et à rejoindre la mobilisation. Salut à tous et merci. C'était Claire, une maman à Petit Mar.
Oui, bonjour, je suis infirmière libérale à Marseille. Je sévis dans les quartiers très modestes et ces gens très modestes donnent raison à Sarko. La RTM est en grève, il n'y a pas de raison de faire grève, ils ont plein d'avantages. Bref, les gens modestes sont très bêtes. Sarko, tu peux y aller, tu peux faire cotiser les gens 60 ans, je pense que ça va passer. Voilà, allez, vas-y Sarko, tous des esclaves. Ciao.
Oui, bonjour, Cédric de Rennes. Oui, donc j'appelais en fait parce que là ce midi, en lisant le journal, j'ai bien rigolé. J'ai vu un petit article qui disait que Rachida Dati est allée en rendez-vous à Nice dernièrement. Et donc elle a pris un avion du gouvernement, elle a fait venir sa voiture blindée, une C6, donc de Paris à Nice avec un chauffeur qui l'attendait avec la voiture, pour quelques heures de rendez-vous, genre 3-4 heures. Ensuite, elle est remontée dans l'avion présidentiel au lieu de reprendre un avion de ligne pas cher. Coût total de l'opération, 10 000 euros. Donc, ça me fait bien rigoler quand on dit qu'on n'a plus de sous et qu'on paye 10 000 euros pour quelqu'un qui se trimballe en robe Chanel. Pour info, ça peut nourrir un détenu pendant 150 jours en prison. Voilà, donc cherchez l'erreur. Allez, salut.
On parle de 68, 68, 68, mais avant 68, comment c'était?
Cette fois-ci, je me lance pour 68.
Moi, j'avais 7 ans. J'étais en grève.
Mai 68 a été le feu d'artifice de toutes les aspirations de l'esprit humain.
En mai 68, j'avais 26 ans. Dès les premiers jours, nous avons occupé l'usine.
C'est délirant ce qu'on peut entendre sur mai 68 en ce moment.
Nous, on était tous du côté des CRS.
Moi, je connaissais rien à la politique, mais j'ai vite appris.
Tu as raison, camarade.
Il m'a semblé que j'étais devenue adulte en 2 mois.
On recommence demain.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, on recommence demain, 1000 mai.
Flight number 2, arriving from Newton.
Française, Français, de tout mon cœur, je souhaite une bonne année à la France. Que sera 1968 ? L'avenir n'appartient pas aux hommes et je ne le prédis pas. Pourtant...
Beaucoup, beaucoup, beaucoup de souvenirs, bien sûr, de mai 68. Mais il y en a un qui surnage au-dessus de tous les autres, c'est Charletti.
Le rassemblement du stade Charletti, déconseillé par la CGT mais suivi par certains ouvriers, se déroulera et se dénouera dans l'ordre, après avoir suscité par son importance la crainte de nouveaux troubles.
Nous avions suivi la marche dans Paris pour accéder au stade. Une longue marche. Mon mari et moi, nous étions à vélo, comme des paresseux. Et un monde fou, hein. Le ciel, c'était la fin de journée, le ciel était rose-orangé, très doux. Et puis on est arrivé au stade, il y avait une foule immense, immense, dans les gradins, sur le terrain, partout. Des Espagnols traversaient le terrain, le poing levé, c'était très émouvant. Et puis, tout d'un coup, un murmure a couru, un petit peu comme une vaguelette portée par le vent sur la mer. Mendès est arrivé. Mendès est arrivé. Mendès est arrivé. Quelle émotion! On était une immense foule de gens ensemble. Et Mendès France, Monsieur Mendès France, était avec nous. C'était merveilleux. On avait le sentiment que quelque chose d'énorme commençait. Hélas, rien ne commençait. C'était la fin de mai. Voilà.
Restez pas là ! Reculez, camarades ! Reculez !
Hey, salut à tous, Chantal de Paris.
Y'a pas de blessés ?
Un petit slogan anonyme sur les murs de Paris en 68. L'économie est blessée. Qu'elle crève. Je vous embrasse tous et vive 68.
C'est vrai que sans le fameux discours d'avril 2007 à Bercy, proféré et prononcé par le grand imprécateur Sarkozy contre 68, contre l'esprit de 68, contre les héritiers de 68, cause de tous les maux du pays, de tous les maux du pays, sans ce discours, sans doute que cette heure que nous allons passer ensemble n'existerait pas aujourd'hui. Alors merci, merci, merci au président d'avoir secoué cette mémoire en profondeur et de n'avoir fait qu'illustrer et que manifester un courant tenace contre le 68. La pensée anti-68 a une histoire, toute une histoire que raconte avec beaucoup de talent d'ailleurs Serge Audier dans un bouquin dont je vous ai déjà parlé mais que je vous conseille à nouveau. Ils ont un essai sur les origines d'une restauration intellectuelle et cette histoire évidemment n'est pas terminée. Contre cette histoire ou par rapport à cette histoire ou par rapport à cette mémoire, on a vu cette incroyable floraison prévisible, cela dit, d'ouvrages, d'émissions, de numéros spéciaux, etc., que la broyeuse, la grande broyeuse de la marchandise est en train d'avaler et fera disparaître. Mais, ce fut une vague, une énorme vague contre la citadelle, une marée haute contre les hauts murs. Bien sûr, cette vague n'a rien détruit. Cette vague n'a pas pris le pouvoir, l'imagination au pouvoir ne prend le pouvoir qu'imaginairement. La forteresse est toujours là, jusqu'au ciel, et de temps à autre, elle disparaît. Nous croyons qu'elle disparaît, mais ce n'est que le brouillard, ce n'est que la fumée de nos fumeuses idées. Mais au matin, elle est toujours là, encore plus écrasante, encore plus tranchante, encore plus éblouissante devant le bleu du ciel. Mais l'important, c'est le limon laissé par la marée. Limon fertile ou sable stérile, là est la question. L'économie est blessée. Achevons-la, disait un slogan de 68. En 68, rien n'était plus facile que de faire effet. Il suffisait d'écrire un slogan et puis de le photographier. Il y a des gars qui... J'ai vu faire ça. Et après, ça pouvait devenir une référence, une idée où, sur laquelle peut-être des universitaires ou des chercheurs travaillent depuis plus de 40 ans. Il y a eu 1000 mètres. Mai se résume non pas à une prise du pouvoir, mais à une interrogation sur le pouvoir. Tous les pouvoirs, en quelques semaines, furent contestés. Le grand mot, c'est contesté. Le pouvoir du patron, le pouvoir du prof, le pouvoir du mari, le pouvoir de l'homme, le pouvoir de l'élu, le pouvoir de la normalité, le pouvoir de la hiérarchie. Évidemment que tous ceux qui avaient le pouvoir, qui détenaient des parcelles ou tout le pouvoir, ou des grands morceaux de pouvoir, n'ont pas du tout apprécié et ont tout fait pour retrouver, recouvrer leur pouvoir un instant, quelques heures, quelques jours, quelques nuits, ébranlés. Et ceci à travers le monde. Et c'est vrai que 68 a engendré la révolution conservatrice, la réaction dans laquelle nous vivons toujours. Mais, le limon. Il y a eu un limon qui porte toujours, aujourd'hui, ses fruits et ses promesses. C'est jusqu'à 16h. C'est là-bas si j'y suis.
Voilà, mai 68, ça va barder.
Je suis depuis longtemps l'édition de Mermez, je les aime beaucoup. Il n'y a qu'une chose qui me choque quand on parle de la plus grande grève du siècle passé. Parce que je ne voudrais pas qu'on oublie celle de 36. J'ai 92 ans, alors excusez-moi de tenir ces propos, mais toutes mes amitiés, je suivrai Mermez jusqu'à la fin de mon combat, petit combat, mais et j'admire beaucoup son émission. Elle est utile pour tous. Au revoir, une biarrotte. Merci.
Bonjour, c'est Guy de Dreux. Bonjour à toute l'équipe. Voilà, je voulais juste un petit témoignage sur maintenant j'ai 57 ans, j'avais 17 ans 68, et bon, moi j'étais pas étudiant, j'étais ouvrier, hein. J'ai commencé à travailler en mai 65 en boulangerie, pâtisserie, et bon, des journées de 12 à 15 heures, pas de repos, juste le mardi. Et quand arrivé mai 68 avec mon frère qui continuait ses études et mes amis, bon ben, ils m'ont entraîné un peu à Paris. Ben, c'est à partir de là que j'ai pris une conscience politique. Pour moi, ça a été très important. Bon, c'est vrai que c'était un peu la fête, je comprenais pas tout au début, mais quand mon patron m'a dit c'est des feignants, ils veulent rien foutre, et puis que j'entendais que travailler 12 heures par jour, c'était pas une vie, il fallait aussi penser à autre chose. Et puis les conditions de travail, tout ça, ça m'a pris conscience. Donc là, bah, toute ma vie après était un peu concerné par ça, quoi. J'ai milité dans les syndicats, un petit peu dans des partis de gauche, et puis j'ai été délégué syndical pas mal de temps. Bon, j'ai toujours été, c'est vrai, plus à l'extrême gauche qu'à la gauche. Et maintenant, bah, j'arrive à ma retraite après 42 ans de boulot. Et c'est toujours assez dur, malgré avoir bossé en boulangerie et un peu ailleurs toute ma vie. Bon, malheureusement, je viens de perdre ma femme qui était aussi militante et tout. Et voilà, bon, c'est pas grand-chose, mais je voulais dire que c'était pas seulement que les étudiants à Paris, c'était aussi ça. J'ai des bons, pour tout, des bons souvenirs. J'ai côtoyé les Mao qui étaient très, très, très réac, je trouve. Ma conscience politique a démarré en 68. C'est vrai que je croyais au grand soir en 68. Je croyais que tous les jeunes seraient de gauche après 68. Bon, j'ai été bien déçu par la suite, mais bon. La réflexion que je me fais, c'est que bah, de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut toujours se battre, surtout au boulot, pour avoir des meilleures conditions. Et puis voilà, quoi, la vie continue. J'ai encore deux enfants à élever, malgré que ma compagne m'ait quitté. Ben voilà, c'est tout. Au revoir.
Voilà, je suis bien loin de la région dans laquelle j'ai fait mai 68, le Val-de-Marne, Ivry-sur-Seine, j'avais à peine 22 ans, un petit garçon d'un an. On occupait notre usine, mon mari de l'autre côté de la rue, qui travaillait pour la grande entreprise Genève, et moi une petite entreprise de métallurgie. Et le plus beau souvenir que j'ai, c'est-à-dire que depuis mes 15 ans, je faisais 50 heures par semaine. Donc des grands souvenirs de l'entreprise, j'en avais pas beaucoup. Mais le plus beau souvenir que j'ai de mai 68, à ce moment-là d'occupation, c'est que je rejoignais mes copines dans l'entreprise, dans la cour, nous papotions. J'emmenais ma poussette, mon enfant, et un jour le patron, ce patron qui nous terrorisait toutes, est arrivé. Frappant sur cette grande porte de fer, ceux qui connaissaient les établissements, Chauvin à Ivry s'en souviendront. Et on lui a dit, on n'entre pas, et il hurlait de l'autre côté, je suis chez moi. Et nous, les femmes, nous lui avons répondu, eh ben pour aujourd'hui, c'est chez nous, et pour encore quelques jours. Voilà, je voulais mettre ma patte à ce grand défilé de témoignages. Et aujourd'hui, avec mes 61 ans, eh bien, je garde encore cette capacité à me révolter, à continuer à faire des permanences à mon syndicat pour encore voir des choses peut-être plus dures que ce que nous avons connu, parce que nous avons connu le droit de se mettre debout et, comme on dit aujourd'hui, de se révolter avec les pieds, en allant dans la rue. Voilà. Merci à toute l'équipe.
On m'a dit, fais des chansons comme ci. On m'a dit, fais des chansons comme ça. Mais que surtout, ça ne parle jamais de choses vraies, tellement vulgaires. Comprenez-vous, entre nous, chers amis, la réalité, faut un peu l'arranger. La réalité, vous savez, comme c'est bien souvent dégueulasse. Non, dans une chanson, pour faire des ronds, il faut créer des images illusions pour faire avaler à nos pauvres couillons notre ennui quotidien. Rien de changé depuis la communale où pendant des années on bourre le crâne aux enfants à grands coups de programme pour qu'ils soient dressé. Rien de changé dans les usines, la gueule des mecs de l'équipe de nuit qui vont dormir quand le soleil se lève, exténué, abruti. Les petites fleurs, les petits oiseaux, les petites filles de français moyen, les grosses bagnoles et les belles de moto. Faire viriliser nos minets, changé depuis l'Algérie. Sinon que maintenant il est permis d'en parler et de gagner des sous avec des milliers de cadavres. Rien de changé depuis un tabassage à la matraque un 14 juillet pour avoir osé chanter et danser quand c'était interdit. Rien de changé depuis qu'un soir j'ai pissé sur ma télé tellement c'était chouette. Et bien sûr toute l'électricité m'est passée dans la quéquette. Bonsoir téléspectateurs, ce soir sur la deuxième chaîne couleur, dans notre série La vie est belle, notre grande enquête sur les Mirabelles. Et puis avant d'aller au dodo, championnat du monde de rotoplo, rien de changé pour la fille de 13 ans avec ses petits seins et son visage d'enfant qui accouche terrorisé dans les chiottes du lycée. Comme dirait un copain à moi, un peu fou, même complètement fou, qu'est-ce qu'on attend pour tout arrêter, tout casser et recommencer.
Bonjour, je m'appelle Lou. Vous avez fait un appel pour les gens qui ont vécu 68 de manière un peu particulière. Je suis dans 58. J'ai fait mes 68 en piquet de grève sur les épaules de mon père. J'en ai un souvenir toujours très ému. On collait des affiches. Je me promenais avec un petit pot de colle. On parlait. J'ai connu par cet intermédiaire ce qui était une entreprise et le contact avec des gens. Depuis, j'ai grandi sans mon père par la suite et c'est un moment très fort d'avoir vécu ça. C'est ma première manifestation. Bien entendu, ça n'a pas été ma dernière. Et j'ai remis le couvert dans les années 70. Non plus sur les épaules larges de mon père, mais toujours avec les banderoles. C'est pas de la nostalgie. C'est pas de la tristesse. C'est simplement un très très beau souvenir où les gens se parlaient et ne se parlaient pas de ce qui se passait à la télévision la veille. Voilà, c'est ce que je voulais vous laisser et vous dire. À bientôt.
Alors moi j'ai un souvenir, ou plutôt le souvenir d'un souvenir, parce que je suis né en 1980, donc j'étais même pas un projet en 1968, mais je me souviens que quand j'étais jeune, il y avait une photo dans un album de famille, et il y avait mon père au milieu d'une... Donc mon père en photo au milieu d'une grande route nationale, et il était assis par terre avec une vieille gratte, une vieille guitare, et des habits carrément en baba cool. Et mes parents me disaient que cette photo elle avait été prise en mai 68 justement, et parce qu'à cette époque-là il n'y avait plus de voitures sur les routes, c'était tout bloqué, et en gros c'était un peu ça la liberté de s'asseoir sur les routes pour jouer de la musique. Alors moi du coup pendant des années j'ai considéré mai 68 comme ça quoi, un peu une sorte de grosse fête où tout le monde allait sur les voies de circulation pour fêter ça, pour jouer de la musique, etc. Bon, en fait, plus tard, Almi était un peu tombé, quoi. Mon père, il jouait pas de la guitare, et mes parents, c'était pas forcément des grands baba cool. Mais ce que je sais, c'est qu'ils en ont jeté des pavés. Et ils ont gardé surtout quelque chose d'intact, de ce joli petit mois qui faillit renverser l'histoire. Voilà. Amis du soir, bonsoir. C'était Nico de Vienne. Ciao.
Oui, bonjour, Progresso de la région de Toulousaine. Je voudrais vous parler de mai 68 et d'une conséquence que l'actualité remet cruellement en vigueur. Voilà, nous étions en octobre 68, les Jeux Olympiques devaient s'ouvrir, et cela, ça nous rappelle bien ce qui se passe aujourd'hui en Chine, et les étudiants mexicains contestaient l'ordre qui régnait chez eux. Et le gouvernement de l'époque mexicaine n'hésita pas à tirer sur les étudiants. On n'a jamais su le nombre exact de morts, ce fut une véritable boucherie, place des trois cultures, et pour que les Jeux Olympiques aient lieu. Et voilà, avec des amis et des groupes de la mouvance mai 68, nous décidâmes, lorsque les athlètes français devaient s'envoler de Toulouse, venant de Font-Romeu, où ils faisaient un stage en altitude, ben nous décidâmes de nous opposer à ce départ, en tout cas de vouloir faire prendre conscience à ces athlètes qu'ils allaient dans un pays où les chars avaient marché sur des étudiants, on avait tiré dessus.
Mais moi, je l'ai vécu.
Si yo tenía 20 años.
J'avais 20 ans.
20 años.
Voilà, le monde sportif reste toujours en dehors de cela. Je me souviens très bien d'un athlète disant « Moi, mon devoir, c'est de lever la fronte. » Et c'est dommage que l'on utilise ces sportifs comme l'opium du peuple. Voilà. Et cela est resté pour moi un grand souvenir de résistance. Et aussi dire que mai 68, moi qui étais fils des migrés espagnols, d'exilés du franquisme, eh bien, mai 68 m'a permis de rentrer dans la réalité française et de former ma pensée. Et le seul regret que j'ai dans ces 40 dernières années, c'est de n'avoir pas gueulé assez fort dans ce domaine-là pour laisser une planète à mes petits-enfants où l'être humain aurait toute sa place. Voilà, merci et merci pour vos émissions. Au revoir.
Les gens qui ont été tués sont enterrés où?
Bon, pues no sabemos.
On sait pas. La tiraron a la. Dicen que venían camiones de basura y los recogían con palas. Como hubo muchos destrozados, de que los pisaban, los llevaron los camiones de basura.
Il y avait des cadavres complètement détruits parce que les gens couraient sur les cadavres, etc. Ils sont arrivés avec des camions d'ordures, pour les ordures, et ils ont ramassé les cadavres avec des pelles et on les a menés.
Où?
À donde los llevaban?
Yo creo los basureros, porque no hubo, dice Ramón que no hubo este, así entierro, no, pues fue cantidad de gente la que murieron.
Il y a pas eu d'enterrement et on suppose qu'ils ont peut-être été jetés dans les ordures.
L'armée et les grenadéros ont évacué l'université et les grandes écoles. Mais aux abords de ces établissements, des affrontements souvent sanglants éclatent avec une soudaineté et une violence étonnante. La nuit dernière, il y a eu 40 morts et de nombreux blessés. Les exigences des universitaires portent sur des points précis. L'abrogation de l'article 145, qui autorise l'arrestation arbitraire. Le respect de l'autonomie de l'université, la démission de trois chefs de la police, la recherche des responsables de la répression, la dissolution du corps des granaderos et la remise en liberté des prisonniers politiques. Ce sont là des revendications qui font l'unanimité chez les étudiants grévistes. Et partant de ce tremplin et débouchant sur d'autres horizons, une nouvelle contestation apparaît, celle qui touche aux problèmes de fond, aux structures politiques, économiques, sociales du Mexique.
De octobre 1968, place des trois cultures à Mexico, 200 à 300 morts, des étudiants massacrés par les autorités mexicaines. C'est une des pages les plus sanglantes et les plus terrifiantes de ce mai 68. On peut tout à fait comparer d'ailleurs à ce qui se passe à Oaxaca aujourd'hui au Mexique. Mais il y a, dans une lutte, il y a des effets toujours imprévisibles, puisque quelques jours plus tard, c'était à 10 jours avant l'ouverture des Jeux Olympiques, ce massacre. Ça n'a absolument pas empêché les Jeux Olympiques. Mais le 17 octobre 1968, on se souvient de ces athlètes noirs qui ont levé le poing ganté de noir en hommage aux Black Panthers, avec cet athlète qui avait déclaré, John Carlos, qui avait déclaré « Après ma victoire, l'Amérique blanche dira que je suis américain, mais si je n'avais pas été bon, il m'aurait traité de noir. » On voit que les luttes s'enchaînent parfois d'une façon imprévisible, c'est-à-dire qu'on se lance dans une action et on ne sait jamais exactement ce qui va évidemment arriver. C'est exactement ce qui s'est passé en 1968. L'important, c'était la lutte, l'important, c'était le désir.
Alors, j'ai 83 ans et je voudrais parler de mai 68. Pour moi et tous les hommes de cette génération, nous nous sommes levés pour combattre le pouvoir. Ce défilé est un énorme défilé où tous les travailleurs se sont levés et retrouvés avec tous les syndicats pour défiler ensemble, et c'est grâce à cette union que nous avons gagné les accords de Grenelle. Vous connaissez ce que sont les accords de Grenelle. Les heures de grève payées, 35% d'augmentation, avoir de vacances pour tous, et les 40 heures. Je pense que c'est à cette époque, parce que moi j'ai travaillé 48, 45 et 40 heures.
Bonjour, un petit peu d'eau à votre moulin mai 68. Quand j'entends Cohn-Bendit et d'autres, je réalise qu'il y a eu vraiment deux mai 68, celui des étudiants et celui des ouvriers. J'étais ouvrier et je me suis battu sans lien avec les étudiants contre nos conditions de travail. J'ai notamment travaillé comme manutentionnaire dans une casserie 2. C'était à Fougères, en Ille-et-Vilaine. Nous étions une trentaine de salariés. J'étais le plus jeune. Beaucoup d'entre nous étaient encore analphabètes. Nous étions très exploités à mort, hein. Comme au Mexique actuellement, ou au Bangladesh, ou en Chine et ailleurs. Ainsi, le contremaître nous menait au fouet, qu'il faisait claquer quand on n'allait pas assez vite à la chaîne ou à décharger et charger les camions. Nous ne savions jamais à quelle heure nous allions être libérés le soir. Nous faisions 10 à 12 heures par jour, et le plus souvent 6 jours sur 7. Payés au SMIG, 100 heures supplémentaires. Celui qui osait se plaindre était sur le champ mis à la porte sans indemnité. Les ouvriers et les ouvrières se pliaient, car il y avait beaucoup de chômage à Fougères. Les usines de chaussures fermaient les unes après les autres. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. C'est Alexis, donc, et bonjour à toute l'équipe. Et puis, il faut y aller, il y a du boulot, hein. Surtout avec l'équipe Sarkozy-Berlusconi, là. Yo-yo-yo. Allons-y.
Salut, Mermé. J'écoute ton émission et je vois tous ces gens qui disent que c'était vachement bien, mais 68. Moi aussi, je le pense aussi. Et puis, j'essaie d'analyser, de me dire, mais pourquoi on dit que c'était bien? Pourquoi? Et puis, je viens de trouver, tout simplement, tout ça, c'est de la foutaise. C'est que, tout simplement, il y a 40 ans, ben, on avait 40 ans de moins. Donc, quoi qu'on ait vécu, ben, c'était génial. Donc, on trouve que mai 68, c'était bien parce qu'on avait 40 ans de moins. Et point barre, on aurait vécu n'importe quoi d'autre, on trouverait que c'était génial. D'ailleurs, tu constates qu'il y a même des gens qui te disent, oh là là, quand je suis allé pour passer mes trois jours pour l'armée, ben, c'était génial, j'en ai chié, mais qu'est-ce que c'était génial? Ben oui, même quand on en a chié, c'était génial, parce qu'effectivement, on avait 10, 20, 30, 40 ans de moins. Donc c'est toujours génial, mais pas pour toutes les raisons qu'ils évoquent. Simplement, ça s'appelle la nostalgie. Voilà.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fools said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell, echoing the wills of silence. And the people bowed and prayed to a neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispering of silence.
Bonjour, au sujet de 1968. J'avais un grand-père qui était premier adjoint de droite dans une commune de droite de la région parisienne. En 1968, ils ont tellement eu peur des rouges qui avaient les couteaux entre les dents qu'ils se sont dépêchés d'acheter 3 bergers allemands et d'enterrer toute leur argenterie dans le jardin.
Bonjour l'équipe. En mai 68, j'avais 20 ans et j'étais étudiante en lettres à Toulouse. De la guerre des six jours en Palestine en juin 67 à l'assassinat du Tché en octobre 67, avec les manifs contre la guerre US au Vietnam, des témoignages vivants des vieux républicains espagnols sur la guerre d'Espagne dans les amphis de la fac, jusqu'à l'hommage à Ho Chi Minh en compagnie des étudiants vietnamiens en septembre 69, mai 68 a ensoleillé ma vie et a forgé en moi des outils d'analyse politique qui m'aident encore et toujours à combattre cette bourgeoisie au pouvoir si sûre d'elle. Mais pas si sûre, semble-t-il. La preuve, sur les grilles du Jardin du Luxembourg, une expo de 80 photos de photojournalisme des 30 dernières années, issue du Figaro magazine de Dassault. Brandillant contre-feu des quelques photos modestes de Marc Ribou, présentées sur la place de la Sorbonne et la façade du lycée Louis-le-Grand. À méditer, n'est-ce pas ? Salut.
Merci à toutes et à tous. C'est navré pour ceux qu'on ne peut pas diffuser. Peut-être qu'on en fera une autre encore d'ici le mois de juin. On va voir. Merci à tous et à ne pas manquer les rencontres du cinéma documentaire consacré à cette année de mai 68, des luttes mai 68, des luttes d'ouvrières, des projections qui se dérouleront les 29 et 30 mai à l'espace 1789 de Saint-Ouen et les 31 mai et 1er juin au cinéma L'Écran de Saint-Denis, avec notamment L'Ordre règne à Sim Cavill. Il faut absolument revoir ce film. Et puis évidemment le fabuleux Sochaux, 11 juin 68. Je dis bien fabuleux parce qu'on va aller à Sochaux là, pour célébrer cet anniversaire. Et puis Oser lutter, oser vaincre, enfin une quantité de films de l'époque. Les rencontres du cinéma documentaire donc à Saint-Ouen et à Saint-Denis. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas, si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission, ainsi que sur là-bas.org, la-bas.org. La technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne et Frédéric Potry, Yann Chouka et Koyen Guyen ont réalisé cette émission. émission qui finit bien avec une jolie musique, assistée de Charlotte Perry, et c'est Christophe Imbert qui a préparé ce répondeur spécial et qui attend la suite de vos messages, avec Charlotte d'ailleurs, parce que c'est elle qui fait tout le boulot la semaine prochaine, au 01 56 40 37 37. Réclame.